Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je vais tout d'abord vous parler un peu de la vie de Roland Giguère, né en 1929 à Montréal, typographe, peintre et poète. Il fonde en 1949 les éditions Herta à Montréal, où il poursuit un travail de poète-éditeur à l'avant-garde de son époque. Dès les années 50, il publie des livres inoubliables comme Les Armes Blanches, Le Défaut des Ruines et D'avoir des Habitants, Adorable Femme des Neiges. Il avait signé le manifeste du groupe surréaliste québécois Prisme Dieu, animé par le peintre Alfred Pellan, avant d'effectuer deux séjours en France entre 1954 et 1963, où il étudie la gravure, fréquente André Breton et le mouvement surréaliste, puis collabore entre autres aux revues Phase, Edda et Boa. Après son retour à Montréal, il fait paraître aux éditions de l'Hexagone l'ensemble de sa poésie sous deux titres, le fameux « L'âge de la parole » 1965 et « La main au feu » 1973, recueil qui lui valent plusieurs prix littéraires. Roland Giguère n'a gardé du surréaliste que son état d'esprit pour élaborer une œuvre originale et d'une lumineuse simplicité de ton. Son œuvre de graveur et de peintre, qui fait partie de nombreuses collections privées et publiques, méritait en 1983 le Grand Prix du Québec Paul-Émile Bordua, autre peintre très connu. Il a fait paraître en 1979 à l'Hexagone son livre « Forêt vierge folle » où il retrace par des œuvres inédites son itinéraire de peintre et de poète. Pour lui, le poète est un plongeur à l'écoute d'une poussée soudaine du poème. « La poésie pour moi, dit-il, n'est pas évasion, mais plutôt invasion. Invasion de l'univers extérieur par le monde du dedans. Pour agir, le poète doit être habité. » Voilà le poète qui s'appelle donc Roland Giguère et qui a la question suivante. Le poète, au travers de ses propres préoccupations, traduisait-il les préoccupations vitales de la société environnante ? Roland Giguère a répondu donc à cette question. Il ne saurait y avoir de cloison étanche entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe au dehors. Le poète étant un sismographe qui enregistre les tremblements de l'être. Il va de soi qu'il est sensible non seulement à ces petits mouvements intérieurs, mais aussi aux grands glissements extérieurs, ou alors c'est un poète en chambre, close, et ses mots d'âme n'intéressent personne. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que la grande poésie est une sorte de CNN de l'esprit. Non pas la CNN que nous connaissons, mais la CNN de l'esprit. Dans l'âge de la parole, donc c'est le recueil que je vais présenter aux auditeurs, les huit parties qui se succèdent sont l'âge de la parole, les nuits à bas jour, midi perdu, yeux fixes, les armes blanches, lieu exemplaire, en pays perdu, adorable femme des neiges, l'axe du temps s'y oriente du passé au présent vers le futur, la volonté du poète d'habiter le présent s'impose d'emblée et devient dépositaire de pouvoirs chargés de signification. L'œuvre de Roland Giguère est entraînée dans le sillage du mouvement surréaliste. L'âge de la parole élève sur la décrépitude d'un monde archaïque la voix libératrice qui bouscule les préjugés et l'ignorance et qui sait tirer la conscience de sa torpeur. Lorsque Giguère a fait paraître ses premiers poèmes en 1945, le Québec traversait une époque désespérément obscure qui explique le ton dramatique et prémonitoire de certains textes. Giguère, ayant adapté l'écriture automatique à son tempérament, use de nombreuses allitérations accordé aux pirouettes verbales chères à la poésie surréaliste. Ces poèmes prose ou encore cette prose poétique s'articulent, s'organisent sur un rythme heurté, resserré par la complexité des thèmes, mais enrichi par la simplicité ordonnée du vocabulaire. Chez Giguère, les épithètes sont lourdes de sens. la valeur musicale, affective et symbolique des mots jaillissantes. L'âge de la parole, relu plusieurs fois, se dégage un thème majeur sur le plan formel qui se dédouble en s'opposant, au moyen de métaphores et d'images allusives. Roland Giguère décrit dans un contenu global deux mondes antinomiques. L'un est un monde passé, aux souvenirs monstrueux qu'il vaut mieux oublier, même si l'oubli ne règle rien, et qu'il faudra transgresser pour renverser la malédiction. L'autre est un monde où l'homme se débat au milieu de l'enfer de la destinée, concrétisé par les éléments. Un souffle érinique parcourt cette poésie parsemée d'images hantées diluviennes. Le poète est alors en mesure d'opposer à ce monde infernal la vision d'un monde à reconstruire dont l'expression est formulée par des substantifs positifs. Oriflamme, eau, douce, sang, parole, œil, jour, blé, vie, main, vague, torrent, amour, femme, neige. Ce monde accédera à la libération par l'entremise de l'amour et de la femme. Je cite « Hier, tu n'étais pas, aujourd'hui tu flambes, ardente au courant des saisons. » Notons que le passage d'un monde à l'autre est envisagé de façon initiatique. D'autre part, le recueil débute par un poème significatif « Vivre mieux » qui illustre fort bien cette transition entre le passé et l'avenir qui caractérise le recueil. Je cite « Je détournais de moi les palmes noires que l'on m'offrait, je quittais pour toujours les routes jalonnées de feux morts pour d'autres routes plus larges où mon sang confondait le ciel, je commençais à vivre mieux. » La transition s'opère au moyen du refus des palmes noires et du passage des routes jalonnées de feux morts à d'autres routes plus larges, mais aussi de la confrontation des deux images, celle de l'échec et celle de l'espoir, d'une prise de conscience native et d'une opposition de tout l'être à ce qui se dégage de ces quelques lignes. Dans son premier recueil, « Les nuits à bas jour », le poète avait recherché un lieu où il pourrait trouver asile, alarmé par la certitude de la destruction inévitable du monde. « J'entre au moment où il faudrait sortir », exprime la condamnation de l'homme qui doit s'expatrier et fuir. Les mots enfantent les images tordues des cendres des décombres. Quel sera l'exil ? À l'origine, une fatalité pèse sur le poète et tient serré ses liens avec cette terre déshéritée. Mais ceci n'existe pas en réalité. Alors, sans boussole ni aide, comme pris de vertige, il s'avancera perdu, angoissé. Dans Les poètes prévoient, Giguère dépasse l'entendement de la vie humaine. Le poète prévoit, et pourtant il sera décapité, car l'âge atomique asservira l'homme, sauf si la femme immense s'interpose entre lui et ce futur négatif. Dans Midi perdu, le bonheur disparaît, et l'enfance tourne le dos au poète. La chaleur initiale s'est volatilisée, mais un espoir confus, instinctif, se heurte à la dépossession. L'enfant devenu homme a réalisé que le temps est irréversible. Ce renversement brutal, c'est la découverte d'un monde d'où le salut s'en est allé. Face au carnage, le poète espère pour les milliers d'autres qui l'entourent. L'homme coupé des châteaux de l'enfance rêvera encore de ses rêves éteints. Le troisième recueil, Yeux fixes, accuse une prise de conscience du poète. Les cris brisent le silence. Le poète, face au désarroi où l'a laissé Midi perdu, tente de se ressaisir, rassemblant une énergie presque surhumaine pour conjurer la complète solitude. Le premier poème était celui de la révolte qui bouleverse le domaine intérieur de l'homme et dont les images se précisent en galeries, mines. Après l'ascension, ce sera la descente en lui-même. Mais le vide menace d'étouffer l'homme qui aspire découvrir en lui les ressources nécessaires à sa survivance. Yeux fixes transgresse le nom identifié pour saisir la matière environnante, faire triompher le poète de sa paralysie, un sang régénéré le parcours, alors le précipite hors de lui. Histoire de voir, le combat est engagé. À l'action mortelle du plongeur répond l'acceptation du cycle existentiel. Il s'ensuit la rupture d'une force délirante qui exalte l'être. Le poète heurtent la nudité du vide où se perdent ses appels à l'aide. L'impuissance ne tue pas pour autant le souvenir. Le poète se tourne donc vers des images, des créations qui identifient le paysage, baobab, pyramide, château, orange, ou parmi lesquels seul le sable signifie le piétinement, la perte de temps, alors que les autres mots créditent sa démarche d'un apport positif. Le poète ne peut escalader les hauteurs abruptes et se retourne vers l'abîme puisqu'il veut à n'importe quel prix s'emparer du nodule d'où jailliront les racines futures. Il se fourvoie, puis ose un pied devant l'autre et se prend à cheminer, à progresser. Un monde de scories, de lave et de feu le précède qui allume les ténèbres. Son œil se dessille au contact de l'espace. L'une des génératrices du monde, l'autre est le temps, mais la vue et la parole vont se chevaucher dans une complexité psychologique et dans un approfondissement intérieur croissant, mais en proportion inverse de tout ce qu'il ne perçoit pas. Donc ne l'inquiète pas et qui tombe dans le néant. Puis Giguère, toujours tendu, découvre une autre voie d'exploration mystérieuse et obscure. La solitude le recouvre, mais lui affermit le cœur. L'assurant que le cycle de vie ne s'éteindra pas, toute mort sera compensée par une salve d'avenir et succomber ne l'effraie plus. L'oubli n'est pas similaire d'extinction du sang. L'amnésie sera constructive en érigeant son rideau de fer qui interdit désormais l'éruption du passé dans le présent. L'homme plonge dans l'inconnu, dans un mouvement de chute qui correspond à une sorte de purification. Voilà la fin de la première partie et que vous pouvez bien entendu retrouver dans notre médiathèque et bien entendu vous pouvez la retrouver de façon gracieuse.